Les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Dans cette émission datant de 1965, François Mauriac, qui a alors 80 ans, parle des grandes vacances de son enfance, puisque, dit-il, son œuvre leur doit tout. Mauriac et sa magnifique ironie, Mauriac et sa séduisante totale absence de psychologisme, Mauriac passionnant quand il parle de la politique et des femmes, Mauriac grand bourgeois, lucide sur la bêtise obtuse et profonde de la grande bourgeoisie, Mauriac donc, tout entier dans cette archive où il s'entretient avec Harold Portnoy.
France Culture présente Impromptu de vacances, une émission de Harold Portnoy. Ce soir, entretien avec François Mauriac de l'Académie française. Assistant, Jean-Marc Siafarikas.
François Mauriac, vous avez écrit dans votre journal « Le temps se divise encore pour l'homme déclinant que je suis devenu, comme pour l'écolier d'il y a presque un demi-siècle. L'année finit en juillet et commence en octobre. Entre ces deux dates s'étendait autrefois une époque radieuse, les grandes vacances. Voulez-vous évoquer ces vacances d'autrefois ?
Je les ai déjà évoquées dans toute mon œuvre, car même mon œuvre romanesque a pris ses racines dans les campagnes de mes grandes vacances. Je dois tout aux grandes vacances, et les grandes vacances, c'est à la fois une certaine époque et un certain endroit. De mon temps, on bougeait très peu. C'était les familles qui avaient une campagne, eh bien, passaient leurs vacances dans ces campagnes. Nous avions des propriétés. Il n'était pas question d'aller ailleurs que dans ces propriétés. J'exagère. Tout de même, nous sommes quelquefois allés à Arcachon et quelquefois nous avons aussi fait des saisons dans les Pyrénées. Mais c'était très exceptionnel. Ce qui comptait pour nous, ce qui s'identifiait aux vacances, c'était les landes, c'était la grande lande de Girondine, mais enfin qui est vraiment la grande lande, car les landes les plus sauvages se trouvent en réalité dans le département de la Gironde et non pas dans le département des Landes, qui est au contraire très fertile, vous savez, autour de Dax. Tandis que mon pays natal, le pays d'où est sortie une partie de ma famille, dans le Bazadais, eh bien, c'était un pays vraiment sauvage du temps de mon enfance. C'était un pays où les routes ne menaient nulle part, où les paysans ne parlaient que le patois, où on était vraiment coupé de tout. Et alors, si vous imaginez que mon enfance est un temps avant l'électricité, naturellement, avant l'auto, avant le téléphone, avant le cinéma. Nous vivions, en somme, beaucoup plus près de l'ancien régime que de l'époque actuelle. Je me rappelle ces paysans de ce temps-là qui ne parlaient que patois, qui avaient des usages qui remontaient certainement à des siècles. Tout cela évoque évidemment un temps très, très, très loin d'une autre. J'ai l'impression, je vous dis, d'avoir vécu sous l'ancien régime. Tout a changé brusquement quand j'avais 15 ans, parce que brusquement, quand j'ai eu 15 ans, tout est arrivé à la fois. L'électricité, le téléphone, les autos. Nous n'étions nullement retardataires dès qu'il y a eu des autos, ma mère en a acheté. Mais tout cela est arrivé très brusquement. Et avant cette coupure de ma 15e année, je vivais dans l'Ancien Régime.
Vous parlez de cette époque de vacances comme d'une époque radieuse. En fait, l'enfant que vous étiez avait certaines difficultés d'être. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cet enfant ?
Oui, vous savez, je crois que tout ce que l'on peut dire sur l'enfance dans cet ordre-là est à la fois vrai ou faux. Je veux dire que j'ai été un enfant très malheureux. Et j'ai été un enfant très heureux. J'ai été très malheureux parce que, comme beaucoup d'enfants d'une certaine espèce, je pense par exemple à Proust, j'avais une passion pour ma mère. Et l'école, par le seul fait qu'elle me séparait de ma mère, était un endroit maudit. De plus, bien que je ne fusse pas pensionnaire, les écoliers de mon temps n'était pas gâté, vous savez. On se levait de très bonne heure, une certaine époque, à 5h30 du matin, pour prendre l'omnibus qui menait au collège. On se levait, quoique je fusse d'une famille bourgeoise, très aisée et même luxueuse par certains côtés. Mais malgré cela, on se levait dans des chambres glacées. Naturellement, il n'y avait pas de chauffage central. Ma mère disait que ce n'était pas la peine d'allumer du feu dans nos chambres, qui en effet n'aurait pas été réchauffé. On chaussait des souliers, mais on avait des pieds gonflés dans gelure. Il y avait tout un petit martyr, si j'ose dire, quotidien, que les enfants d'aujourd'hui ne connaissent plus. J'ai l'impression, vraiment, que sur ce plan-là, j'ai énormément souffert. De plus, j'étais un enfant très tranquille, pas très vigoureux, qui n'aimait pas les récréations, parce que les récréations, c'était les jeux collectifs, vous savez, et les jeux collectifs étaient toujours des jeux très brutaux. Mais quand je vous ai fait cette peinture très sombre, tout à coup, je m'aperçois que j'exagère beaucoup. D'abord parce qu'on mêle les époques très vite, disons vers 12 ans, 12 ou 13 ans, je suis devenu un garçon, au fond, qui savait se défendre. Et les tristesses de l'enfant de 7 ans, 8 ans, 10 ans, eh ben je les ai très vite surmontées, n'est-ce pas ? Vous savez, on mêle des époques très différentes. C'est à 7 ans que j'étais malheureux. C'est à 7 ans, à 8 ans que j'étais malheureux. À 12, 13 et 14 ans, je ne l'étais déjà plus. J'avais repris le dessus. Mais même à 7 ans, même à 8 ans, même à 9 ans, il y avait des heures merveilleuses. D'abord, l'heure du retour à la maison, justement. La joie du retour compensait peut-être la tristesse du départ. J'ai gardé un souvenir émerveillé. Je courais presque sur le trottoir pour arriver plus tôt, pour m'asseoir près du feu, dans la chambre de ma mère, pour regarder le Saint-Nicolas. C'était des heures, pour moi, vraiment merveilleuses. Ensuite, alors, il y avait ce dont vous parliez tout à l'heure, il y avait les vacances. Et les vacances, chacune avait son style, et les vacances de Noël et du jour de l'an qui était très courte. Ça ne dépassait jamais 8 jours. Mais c'était une accumulation de bonheur, enfin de cadeaux. On ne nous donnait jamais rien pendant l'année. C'était pas dans les principes de nos familles. Mais au moment du jour de l'an et de Noël, tout nous était donné à la fois. Comme nous avions beaucoup de parents, beaucoup d'oncles, et que nous étions nombreux, et que chacun de nous recevait ses jouets, alors c'était en 8 jours une sorte d'accumulation de jouets, de livres surtout, qui comptaient surtout pour moi. Cette joie des vacances de Noël était naturellement très singulière, mais rien ne valait naturellement, rien n'écalait le bonheur des grandes vacances. On entrait dans un monde absolument enchanté.
Enfin, nous ne connaissions guère que les Landes. L'être collectif dénommé les garçons, et dont je n'étais qu'une parcelle, avait décidé que, hors le pays des pins, du sable et des cigales, il n'était pas de vacances heureuses. À peine connaissions-nous la propriété de vigne que plus tard je devais tant aimer. Notre mère assurait que nous n'eussions voulu pour rien au monde du sort des malheureux enfants qui croyaient s'amuser à Royan, à Arcachon ou à Bagnères. Nous en étions nous-mêmes persuadés. Ainsi sont entrés en moi pour l'éternité ces étés implacables, cette forêt crépitante de cigales sous un ciel d'airain que parfois ternissait l'immense voile de soufre des incendies. Alors les tocsins haletants arrachaient les bourgs à leur torpeur. Aussi brûlant qu'ait été l'après-midi, le ruisseau appelait la hure et ce qu'il traînait après soi de brouillard flottant et de prairies marécageuses dispensait le soir une fraîcheur dangereuse qu'au seuil de la maison nous recevions, immobiles et la face levée. Cette haleine de menthe, d'herbe trempée d'eau, s'unissait à tout ce que la lande délivrée du soleil, fournaise soudain refroidie, abandonne d'elle-même à la nuit, parfum de bruyère brûlée, de sable tiède et de résine, odeur délicieuse de ce pays couvert de cendres, peuplé d'arbres aux flancs ouverts. Je songeais au cœur que la grâce incendie et qui ont choisi de souffrir. C'est pourquoi l'automne dans la lande est un tel miracle. Dans bien d'autres pays, l'arrière-saison fait saigner les feuillages, change en or sombre les fougères, ainsi que j'écrivais dans mes narrations qui avaient l'honneur d'être lues devant toute la classe. Mais nulle part elle n'est, comme dans nos landes consumées, une telle libération. Les palombes, sous le trouble azur du mois d'octobre, sont le signe qu'est fini le déluge de feu.
Et quelle impression avez-vous lorsque vous retournez sur ces lieux maintenant ?
Oh, une impression. Cela dépend beaucoup de l'endroit. Parce que de ces lieux dont vous parlez, quelques-uns sont restés dans ma vie actuelle. Par exemple, Malagar. Malagar m'appartient par conséquent. J'y suis toujours revenu. Mes enfants y ont eu leur enfance. Alors Malagar a continué, si vous voulez. Tandis que le pays des Landes, où je passais mes grandes vacances, et où j'ai encore quelques pins qui m'appartiennent, mais la maison est passée à une autre branche de la famille, Et alors j'y reviens de temps en temps, pèlerinage. Mais alors là, c'est une impression très sinistre. D'abord parce que ce pays landais a été dévoré en partie et détruit par des incendies il y a une quinzaine d'années. En réalité, le parc de notre enfance y a échappé. Mais il est comme isolé, comme dans certains rêves où un jardin que l'on a habité se trouve transporté dans tout autre pays. Eh bien, le pays tassin-forien dont nous parlons en ce moment est pour moi désaccordé comme ces paysages de rêve. Le parc est toujours là, la maison est toujours là, mais alentour, tout a changé. Les forêts ont été détruites, les métairies ont disparu. Certaines qui, pour moi, étaient des endroits de rêve et que j'aimais entre toutes, eh bien, n'existent plus. C'est pour moi très, très douloureux. Quant au parc lui-même, ce sont les plus vieux pins du pays. Ils datent de Brémontier, enfin, ils ont peut-être 150 ans ou 200 ans. Et alors, ils sont pourris de l'intérieur. Et à chaque tempête d'équinoxe, il y en a une partie qui est abattue, ce qui fait que quelques-uns survivent. Mais c'est une forêt, enfin, atteinte, blessée à mort. Il y a encore quelques vétérans qui demeurent, que je vais voir. Enfin, j'ai l'impression que nous mourrons ensemble, vous comprenez ? Ce qui fait que c'est très tragique. Mais il y a encore le ruisseau, il y a encore certains endroits où je me retrouve. Mais alors les prairies sont devenues des marécages. Enfin, quand on a vécu très vieux comme moi, on s'aperçoit que la terre change.
François Mauriac, comment expliquez-vous l'importance de l'enfance dans la création de l'artiste ?
Vous savez, je crois que c'est important pour l'artiste que je suis, pour l'artiste qu'était Proust, mais il y a beaucoup d'artistes. André Malraux m'a dit lui-même combien il était étonné de voir la place que l'enfance tenait dans une vie comme la mienne et que lui, m'a-t-il dit, détestait son enfance. Il y a des artistes, des écrivains, qui ne prennent pas du tout leur inspiration dans leur enfance, n'est-ce pas ? D'ailleurs, pour vous dire la vérité, je ne crois pas que ce soit très bon signe, n'est-ce pas, d'être prisonnier de son enfance, comme moi et certains autres, nous le sommes. Je crois que c'est parce que nous n'avons pas su mûrir, c'est parce que nous ne sommes pas développés, vous comprenez ? J'ai bien tort de dire cela, parce que c'est... Quand on a beaucoup d'ennemis, ce qui est mon cas, on leur fournit des armes. En effet, la plupart des gens qui disent du mal de nous racontent des histoires qui ne sont pas vraies. Et ils ne racontent pas ce qui est vrai. Enfin, si je voulais m'éreinter, je sais bien tout ce que je dirais. Et je dirais justement ce que je vous dis en ce moment, c'est que j'ai le sentiment que je n'ai pas mûri, que je me suis fixé à une certaine époque. Vous comprenez ? Ce qui explique que j'ai été fixé sur l'enfance. Et que j'ai marché la tête tournée, comprenez, au risque d'être changé en statue de sel, vous savez. Je ne crois pas qu'on puisse s'en vanter, mais c'est un fait.
Le tragique de Bordeaux tient pour moi dans ce drame que j'y ai vécu et qui est celui de quelques adolescences provinciales. Une prodigieuse vie individuelle refoulée, sans expression, sans épanouissement possible. Au collège, dans la famille, je faisais partie d'un tout. Je n'existais qu'en fonction d'un groupe. J'étais l'écolier puni parce qu'il refuse de jouer au jeu commun et préfère, en dépit du règlement, les conversations particulières. Et de même, en famille, mes frères et moi appartenions à cette collectivité dénommée les garçons, comme on eût dit les canards. Qui a cassé ce vase, ce sont les garçons. Monsieur l'abbé nous a débarrassé des garçons, il les a menés du côté de Tartehume. Avoir une chambre où j'eusse été seul, ce fut le désir frénétique et jamais satisfait de mon enfance et de ma jeunesse. Quatre murs entre lesquels j'eusse été un individu, où je me fusse retrouvé enfin. Celui de mes frères qui partageait ma chambre sans doute en souffrait-il autant que moi, car nous étions arrivés à nous rendre presque invisibles l'un à l'autre, tant nous avions su délimiter nos domaines respectifs. Je me rappelle des mots bien inoffensifs qui m'atteignaient jusqu'au tréfonds. Le règlement est fait pour tous. Tu n'es jamais comme les autres. Tu n'es pourtant pas différent des autres. Tu es fabriqué de la même pâte. Ce qui m'intéressait en moi, c'était justement ce qui n'était pas les autres. À la campagne, enfin, je me retrouvais moi-même. D'abord délivré du collège, puis, quoique je demeurasse incorporé au groupe dénommé les garçons, je pouvais mieux m'en détacher qu'à la ville. Assis sur un tronc de pin, au milieu d'une lande, dans l'étourdissement du soleil et des cigales, ivre à la lettre d'être seul, je ne pouvais pourtant pas supporter cette confrontation avec moi-même à laquelle j'avais tant aspiré, et ne me retrouvais que pour me perdre, pour me dissoudre dans la vie universelle.
Mais je crois que, à l'enfance, vous attachez un pouvoir au-delà même de la création littéraire. Pour vous, il y a une possibilité, une ouverture toujours chez l'enfant. C'est peut-être cela qui vous a fasciné.
J'aime l'enfance parce que, pas seulement la mienne, mais celle des autres. J'ai des petits-enfants. J'en ai un qui a 13 ans maintenant, qui est mon préféré, bien sûr, parce que c'est le fils de mon fils. Et quand il avait 12 ans, j'étais émerveillé par lui, quoi que ce soit un petit garçon, pareil à tous les petits garçons, qui n'a absolument rien d'extraordinaire. Simplement, il y a chez un enfant de 12 ans, je parle d'un enfant ordinaire, il y a un miracle, je trouve, n'est-ce pas ? C'est-à-dire qu'il y a cette découverte du monde qui relève du génie. Et il y a en même temps, quoi qu'en ait dit Freud et tout ce qu'on veut, et toutes ces histoires, il y a une grande pureté en même temps, vous comprenez, je veux dire, le sexe n'est pas commencé, vous comprenez, ou enfin, sous une forme tellement inconsciente que ça ne compte pas, il y a la découverte du monde, et il n'y a pas encore toute l'impureté de la vie, et alors c'est un âge que moi je trouve merveilleux, n'est-ce pas, à mesure que l'enfant s'en éloigne, qu'il se rapproche au contraire de la date où on entre dans les orages et dans le trou, et je trouve qu'il y a quelque chose de déchirant. C'est vrai que des garçons, parce que les filles, ils sont toutes des femmes. Enfin. Il n'y a pas d'enfance pour les filles. Je ne crois pas, enfin. Il n'y a pas de véritable enfance. Elles ne sont jamais innocentes. Tandis que les garçons le sont, se trouvent, enfin.
Comment expliquez-vous ce que vous venez de dire ?
Oh, c'est parce que c'est physiologique. Il est évident que les filles sont des femmes beaucoup plus tôt que les garçons ne sont des hommes. Enfin, elles le sont incroyablement tôt, n'est-ce pas ? Moi, j'ai eu des enfants, j'ai eu des petits-enfants. Et je vois que la coquetterie des filles, le désir de plaire. Enfin, la femme est là déjà tout de suite, n'est-ce pas ? Je le trouve. Enfin, c'était mon expérience à moi. C'est leur charme, d'ailleurs, naturellement. Mais elles sont bien moins innocentes que les garçons. Il me semble aussi, mais là, c'est une expérience personnelle.
Lorsque vous étiez enfant, aviez-vous des camarades filles, des
oui.
amis filles ?
Oui. J'avais des camarades filles que j'adorais. Parce que c'était des cousines. On ne vivait pas en dehors de la famille. Nous étions une famille nombreuse. et nous vivions absolument enfermés dans un monde clos, en dehors des camarades du collège, bien entendu. Mais nous nous suffisions à nous-mêmes. Nous étions 5 enfants et nous avions de nombreux cousins et cousines. Mais alors j'avais des cousines, moi, pendant une partie de ma vie, jusqu'à 10 ou 12 ans. J'habitais dans la même maison que ma grand-mère et ses cousines habitaient aussi la même maison que ma grand-mère. Eh bien, le bonheur pour moi, évidemment, c'était de les trouver, n'est-ce pas ? C'était de les rejoindre, une en particulier. Et il est certain que j'ai été très influencé par elle, vous comprenez par le... Je n'aimais pas les jeux de garçons, pour dire la vérité. J'étais beaucoup plus heureux, parce que les garçons étaient trop brutaux, vous comprenez. Et tandis qu'avec mes cousines, j'étais très, très, très heureux. Alors là, et elles aimaient la lecture, une d'elles au moins, aimait les livres, comme moi, enfin, j'avais de grands échanges avec elle à ce point de vue-là. Mais tout ça ne se passait pas sur un plan, comment dirais-je, sexuel, n'en parlons pas, mais même vraiment sentimental. Non, c'était autre chose. Mais enfin, j'ai beaucoup vécu dans une atmosphère féminine, certainement.
Cet immense bourdonnement des étés de mon enfance, je ne l'entends plus qu'au-dedans de moi. Il me semble que les étés ne bourdonnent plus et que les grillons se taisent quand je passe pour ne pas me faire penser au jeune homme d'autrefois. S'il existe à jamais des enfants comme celui que je fais surgir d'un gouffre d'années, la race en doit être bien perdue. Il fallait, pour produire ces garçons trop sensibles, des conditions très singulières qui ne se trouvent plus réunies aujourd'hui. Il n'existe guère plus, j'imagine, d'enfance préservée. Une espèce d'insurrection obscène de refrains et d'images pénètre partout désormais, viole les foyers les plus austères et hurle sans fin aux oreilles des enfants ce que les hommes entendent par bonheur. Mais qui sait ? Telle est la bassesse de ce déferlement. Il suscitera peut-être une autre génération de garçons aussi avides, aussi déçus que celui qui, il y a 60 ans, appuyé à la barrière de la cour, regardait les ouvriers siffleurs échafauder l'estrade de la distribution des prix, d'où il imaginait qu'il allait prendre son vol vers un bonheur immense et vague qui n'avait pas encore de nom.
Actuellement, que faites-vous lorsque vous êtes en vacances ?
Quand je suis en vacances, je continue de faire ce que je fais le reste de l'année. Parce que vous savez, la vieillesse, ce sont des vacances perpétuelles. De même que mourir, ce sera entrer dans des vacances éternelles, dans des loisirs qui ne finiront pas. Eh bien, la vieillesse, c'est cela. Remarquez, j'ai l'air de travailler, et en effet, je travaille encore par habitude, mais en réalité, je suis vacant. La vieillesse, c'est d'être dans une salle d'attente, c'est d'être assis dans une salle d'attente avec son bagage sur les genoux, et puis d'attendre que le train arrive. Alors, il n'y a pas de vacances en réalité, ou si vous voulez, c'est marqué par des déplacements. Si vous aviez... Vous pourrez lire mon bloc-notes de ce matin où justement je traite de ce sujet. Si je suivais, surtout quand il fait aussi frais qu'aujourd'hui, si je m'écoutais, je ne bougerais pas. Je bougerais d'autant moins que tous les autres bougent. Je trouve merveilleux de ne pas remuer et je me trouve très bien ici. Mais on est tributaire de certaines habitudes quand on appartient à une famille, quand on n'est pas seul. Alors, dans quelques jours, bien sûr, je partirai dans un jardin des environs de Paris, mais où je ne serai certainement pas mieux que je ne suis ici, ou serait même probablement beaucoup moins bien, je le fais parce que c'est comme ça, parce que nous sommes un wagon accroché à un train, et qu'il faut faire ce qui se fait dans les familles. Mais je n'irai nulle part ailleurs que là, sauf à Malaga au mois de septembre. J'irai dans mes maisons, parce qu'il faut y aller. Mais dans ces maisons, je mènerai exactement la même vie que je mène ici, qui est de lire et d'écrire un peu. Mais de lire surtout. Une opération m'a rendu mes yeux de 20 ans. Et maintenant, je peux lire indéfiniment sans fatigue. Eh bien, je continuerai de lire. La vie n'est plus que cela à mon âge. On lit, on écrit. Quand on est chrétien, on a sa vie religieuse. Ça, je n'en parle pas, c'est le plus important. Mais il y a la vie de relation. C'était extrêmement réduite. Vous savez, l'amitié qui a beaucoup compté pour moi, c'est une affaire de jeunesse. C'est quand on a 20 ans qu'on a des amis. Mais à mon âge, oui, ceux que l'on aimait, enfin vraiment, sont morts. Ceux que l'on a, ceux de votre âge, on a bien de l'amitié des uns pour les autres, mais on ne se voit jamais, il faut bien dire les choses comme elles sont. On ne sent plus le besoin. Cette vie de conversation, cette vie en groupe, cette vie qui était ceux de la jeunesse. Alors, la vieillesse, c'est la solitude. Je le dis dans mon prochain volume de mémoire intérieure, c'est l'îlot de Monte Cristo, vous comprenez, on est avec un trésor au milieu d'ailleurs, qui est le monde du souvenir, mais c'est la solitude. Alors, les vacances, ça n'a plus grand sens, vous comprenez? Ça n'a plus grand sens.
Ne pas bouger et attendre. Oh, que j'entrais aimant aujourd'hui dans le secret de cette immobilité. La barque ne tient plus à rien, et pourtant elle ne dérive pas, bien que toutes les ancres soient levées. Pour moi, ce n'est pas comme pour Proust le bassin de Radoub de la maladie qui m'immobilise, mais les amarres du grand âge suffisent. La vieille barque ne bouge plus parce qu'elle est vieille. Ou du moins, elle ne bougerait plus s'il ne dépendait que de moi. Un divan, du papier, un stylo, des livres, je ne demande rien d'autre. Et la rue de la Source, à deux pas, où je vais comme un prisonnier qui saurait qu'il va être élargi bientôt et qui appuierait son front à la porte derrière laquelle il sait que commence l'éternité. J'éprouvais cela tout enfant. Je me souviens de cette cour où je jouais, entre la maison du paysan, l'écurie, le four où cuisait le pain, le hangar où Diane faisait ses petits. Les grands pins mystérieux d'un monde inconnu se dressaient derrière le mur infranchissable. Il y avait une petite porte dans le mur, mais condamnée, et qui ne servait plus à personne. Dieu sait que j'aimerais ne pas quitter Paris cet été. Mon plaisir s'accroîtrait à l'idée du torrent de moteurs sur les routes et de ces plages grouillantes. Mais je devrais me soumettre, moi aussi, aux déplacements forcés. Je m'y résigne sans joie. Non que je ne sois attaché à ce jardin près de Paris, où je vais aller d'abord, trop près de Paris pour ne pas être condamné. Ces êtres séculaires, je les sais aussi éphémères que moi, à peine me survivront-ils. Déjà la ville a jeté un tentacule d'autoroute dans notre direction, et ne nous a manqué que de peu. Dans 10 ou 12 ans, tout sera consommé. Pour écrire leur propre histoire, mes enfants pourront emprunter un titre à René Boislève, « Souvenir du jardin détruit ». Cette menace ne pèse pas sur ma lagare. Pourtant, je n'y respire pas mieux qu'en Seine-et-Oise. C'est qu'une vieille maison, c'est qu'un vieux domaine, finissent par ressembler à ces plaques sensibles sur lesquelles plusieurs photographies superposées ont été prises, et où se confondent des visages brouillés. Je subis l'obsession de ces présences à demi-effacées, et je participe moi-même de leur effacement. En revanche, un appartement de Paris, nous avons beau y camper depuis plus de 30 ans, y avoir souffert, et même comme ce fut mon cas, frôler la mort, aucune image n'y a pris vraiment. Je ne m'y suis jamais attaché. J'y suis resté par paresse, par indifférence surtout. L'indifférent, Watteau a eu tort de le peindre sous les traits d'un être jeune. Tant qu'il nous reste un atome de jeunesse, nous ne sommes indifférents à rien, ni à personne, même quand nous croyons l'être. Une chambre de Paris, dont la fenêtre ouvre sur des toits, c'est l'endroit le plus neutre. La matière qui la compose participe de ce macadam des trottoirs où n'a jamais laissé de trace le moindre pas humain. C'est de là que je me sens libre d'aller sans bouger où je veux aller, surtout maintenant que j'ai retrouvé mes yeux d'autrefois. Je saute d'un livre à l'autre, d'une barque dans l'autre, ou bien cette barque, je la tire sur le rivage comme font Pierre et les fils de Zébédée aujourd'hui dans l'évangile de ce quatrième dimanche après la Pentecôte. Et j'essaie de rejoindre quelqu'un au-dedans de moi. Ah, j'ai vite fait de revenir sur mes pas vers des pensées connues et des paysages familiers. Le pauvre amphibie humain, capable de Dieu, tel que l'a défini le cardinal de Bérulle, c'est un ange, c'est un animal, c'est un néant environné de Dieu, indigent de Dieu, capable de Dieu et rempli de Dieu s'il veut. Le pauvre amphibie humain sait dans quelle eau piquer une tête et s'ébrouer, et où il retrouvera la mare et la bourbe familière, la politique.
Que l'équilibre est difficile entre le retranchement et l'action.
Oui, moi, il y a tout un parti de mon être, tout un côté de ma vie qui m'a jeté dans l'action parce que, d'une part, j'ai toujours été passionné par la politique. Dès que je sors du rêve de ma vie, en quelque sorte, de mon problème intérieur, je suis passionné par la politique. Je n'ai pas du tout ce mépris de la politique que beaucoup de mes confrères ressentent, n'est-ce pas, ou comme si c'était une impureté. Pour moi, le drame politique me passionne. C'est pour ça que j'aime tant De Gaulle, entre autres choses. C'est qu'il est enfin un personnage qui joue le drame politique, qui est au niveau du drame politique, vous comprenez. Moi, je suis dans ma 80e année. J'ai été passionné par la politique toute ma vie. J'ai toujours trouvé les personnages politique très, très inférieur à ce drame immense, n'est-ce pas, et passionnant et terrible. J'ai très rarement trouvé l'acteur à la hauteur du drame, vous comprenez. Alors De Gaulle, qu'on l'aime ou qu'on le déteste, lui joue merveilleusement son personnage, n'est-ce pas. Je suis stupéfait de voir le dédain avec lequel on parle, vous comprenez, mes confrères, vous comprenez, Sartre ou Simon. Alors qu'il devrait se dire, mais voilà enfin quelqu'un, voilà quelqu'un qui est à la hauteur du destin, vous comprenez. Il est ce qu'il est, je comprends très bien qu'on ne l'aime pas, mais je ne comprends pas qu'on ne l'admire pas. Parce que même, prenez Clémenceau par exemple, c'était un vieil étudiant en médecine qui a été à la hauteur des circonstances à un moment donné, très peu de temps, et puis une fois la guerre finie, il a été au-dessous de tout, il s'est fait rouler à Versailles, comme le premier venu de Gaulle, lui, ne se serait pas fait rouler. Vous comprenez ? Vous comprenez ce que je veux dire ? Et il ne se fait pas balayer non plus. Churchill a été balayé tout de suite. De Gaulle, on ne l'a pas balayé, il est là. Enfin, il est tellement plus fort que tous ces gars qu'il traite si mal, n'est-ce pas ? Mais enfin, nous n'en sortirions pas. Oui. Mais ce que je voulais simplement vous dire, c'est que la politique m'a toujours passionné, malgré tout. De plus, je suis un mauvais chrétien, mais je suis un chrétien. Naturellement, j'ai le goût de la politique, mais je suis en même temps un écrivain qui préférait écrire des livres. Mon métier était d'écrire des livres. Mais ce qui m'a poussé à intervenir dans le débat politique, c'est le chrétien. Il n'y a pas de doute. À 18 ans, j'avais été en quelque sorte converti à une certaine conception du monde par Marc Sagnier et par le Sillon. Mais à partir de là, j'ai toujours été, si vous voulez, sensibilisé. J'ai toujours eu mauvaise conscience en tant que bourgeois et que grand bourgeois. Cette mauvaise conscience, je l'ai endormie pendant de très longues périodes, mais elle se réveillait à certains moments. Et en particulier au moment de la guerre d'Espagne, où je suis intervenu, et ça a été assez important parce que vous savez, Franco était malgré tout un catholique et incarnait la catholique Espagne. Eh bien, il a été très important que des hommes comme Berdanos, comme Jacques Maritain, comme moi-même, nous soyons intervenus à ce moment-là. Et d'une certaine manière, j'estime que nous avons sauvé un certain honneur catholique. Et à partir de ce moment-là, tant mal que bien, je suis intervenu dans les débats qui ont déchiré notre époque, et je suis toujours intervenu dans un certain sens, n'est-ce pas ?
Ne peut-on pas parler d'une certaine vacance de l'esprit sur le plan civique en France ?
Oui. Vous savez, je ne me rends pas compte si on a le droit de dire les Français, et si ce qui se passe sur ce plan-là en France ne se passe pas tout aussi bien en Angleterre, ou en Italie, ou en Allemagne. Ce qu'il y a, c'est que ce peuple, ou ces peuples, et mon Dieu, on ne peut pas les en blâmer, souffrent moins qu'autrefois. Ils ont beaucoup souffert. Ils ont traversé une époque tragique, une époque horrible. Ils ont débouché sur un monde où, malgré tout, les loisirs tiennent plus de place, ou je ne veux pas exagérer le confort de la classe ouvrière ou de la petite bourgeoisie. Malgré tout, il y a eu tout de même de très grands progrès effectués, et il est certain que ce peuple, dans sa masse, est absolument incroyablement hypnotisé par cette idée de loisir. Vous savez, c'est Saint-Just qui disait que le bonheur est une idée neuve en Europe. Eh bien, c'est vrai maintenant. On a l'impression qu'il y a une certaine idée du bonheur, n'est-ce pas, qui fait que ce qui était le privilège d'une classe très restreinte et la classe ouvrière et la petite bourgeoisie croient l'avoir conquis. En quoi ils se trompent d'ailleurs, parce que tout est dans l'idée qu'ils s'en font. Et je crois que si beaucoup de gens, enfin, expliquaient vraiment ce qu'a été leur vacances, ce serait une immense déception. Je crois que ce qui est merveilleux, c'est le rêve qu'ils en font pendant 10 mois de l'année. Et je crois que lorsqu'ils les traînent, n'est-ce pas ? Enfin, je n'en sais rien, ce serait à eux de le dire. Mais vous savez, moi je ne sais rien de plus atroce que ce qui s'est passé l'année dernière, ou il y a 2 ans. Vous savez, ces pauvres gens qui ont acheté des caravanes, qui ont organisé leur vie au bord d'un fleuve, et ce fleuve déborde tout à coup et emporte tout et détruit tout. Je ne sais pas, vous rappeler ces scènes de l'année dernière. Il y a comme une sorte d'ironie atroce, vous ne trouvez pas ? Eh bien, il n'y a pas toujours des fleuves qui débordent et qui détruisent tout. Mais je crois qu'il doit y avoir toujours quelque chose qui fait que ça ne ressemble pas, que ce qu'ils réalisent est tellement différent de ce qu'ils ont rêvé. Mais enfin, pour en revenir à ce qu'on disait, le peuple français, comme vous, la plupart des peuples, vivent dans une espèce de songe éveillé, vous comprenez ? Et ils se fichent pas mal du Parti Socialiste et du PSU et de M. Defferre, n'est-ce pas ? Ils pensent à leur caravane, ils pensent à...
N'est-ce pas dangereux ?
Ben, je ne sais pas si c'est dangereux, Mais c'est un fait, je crois que... C'est comme ça, vous comprenez? Je crois que nous vivons dans un monde très différent de ce qu'était le monde d'autrefois. Mais, vous comprenez, c'est le malheur du monde qui faisait qu'il y avait, par exemple, une gauche, vous comprenez? Quand on étudie l'histoire, on voit très bien que 1830, que les journées de juin, que c'était un peuple qui avait faim et qui n'avait pas de travail. Vous savez, c'était horrible. La bourgeoisie était horrible, vous comprenez? Il lui a fallu 100 ans pour comprendre qu'elle avait avantage à donner aux gens non seulement du pain et du travail, mais un peu de loisirs. Et en effet, les gens, ce peu leur suffit, c'est incroyable. Enfin, c'est comme ça. Mais la bourgeoisie a été d'une bêtise à ce point de vue-là. Elle aurait pu s'épargner en donnant un peu de pain et de travail aux gens. Elle aurait pu s'épargner de les massacrer d'abord, comme elle a fait pendant les journées de juin et comme elle a fait en 70. Vous comprenez ? C'est incroyable qu'il aurait fallu tant de temps pour comprendre ça et tant de sang répandu. C'est affreux.
Le bonheur est une idée neuve en Europe, proclamait le jeune Saint-Just. Un siècle et demi après que cette parole a été prononcée, nous savons que le bonheur en Europe est une illusion perdue. Pour accomplir les desseins de Machiavel, les peuples sont brassés et déportés, des races entières sont condamnées à périr. À quel autre moment de l'histoire les bagnes se sont-ils refermés sur plus d'innocents? À quelle autre époque les enfants furent-ils arrachés à leur mère, entassés dans des wagons à bestiaux, tels que je les ai vus par un sombre matin à la gare d'Austerlitz? Le bonheur en Europe est devenu un rêve impossible, sauf pour les âmes basses. Non, il ne s'agit pas de bonheur. Il s'agit de faire front contre ce Machiavel dont, même après l'écroulement de l'Allemagne, aucun peloton d'exécution n'interrompra les crimes, car il est tapis et agissant dans des millions de consciences. Et en France même. Nous avons à faire notre choix. Nous parions contre Machiavel. Nous sommes de ceux qui croient que l'homme échappe à la loi de l'entre-dévorement, et non seulement qu'il y échappe, mais que toute sa dignité tient dans la résistance qu'il lui oppose de tout son cœur et de tout son esprit. Non, l'esprit humain ne s'abuse pas sur sa destinée. Non, il ne se trompe pas en protestant que la condition des termites et des fourmis ne n'éclaire en rien sur la sienne. N'y aurait-il eu au cours des siècles, en un bref intervalle de temps et d'espace, qu'un seul mouvement de charité? La chaîne sans fin des dévorants et des dévorés en eût été à jamais rompue.
Impromptu de vacances. C'était une émission de Harold Portnoy. Ce soir, entretien avec François Mauriac de l'Académie française. Texte lu par Bernard Jousset. Assistant Jean-Marc Siafarikas. Collaboration technique Michel Ristich et Madeleine Fanchon.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 23 août 1965.